Et nous allons attaquer donc la deuxième session de la partie virtualisation de la conférence César. Et donc, nous allons traiter donc l'introspection des bacs à sable. Donc, je donne la parole à Yves Luyer du CEA List.
Voilà. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon.
Voilà.
Donc, tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir entamer cette session. Donc, comme ça a été mentionné, qui rassemble un peu tous ceux qui ont détourné les technologies de virtualisation pour faire de la sécurité, de l'analyse de code et du sandboxing. Et dans cette présentation en particulier, je vais m'attarder sur justement la validation de ces technologies de virtualisation. Je ne parle pas assez fort ? D'accord, oui, je vais mettre plus en face du micro. Merci beaucoup. La validation de ces plateformes virtuelles à des fins donc, d'analyse de sécurité. Donc tout d'abord, je vais commencer justement par essayer de désambiguer un petit peu tout ce qui est technologie de virtualisation, qu'est-ce qu'on entend derrière ces technologies. En particulier, donc, on va parler de virtualisation de systèmes électroniques. Et qu'est-ce que c'est que la virtualisation de ces systèmes électroniques ? Alors on va dire qu'au sens large, c'est la capacité qu'on a de simuler un système électronique cible sur un système électronique hôte, au sens vraiment très très large. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis très longtemps et qui a eu de nombreuses utilisations dans différents domaines. En premier lieu, on pense au tout début, ces simulateurs étaient faits pour pouvoir faire du prototypage matériel, pour être capable de se poser la question qu'est-ce qui se passe quand je rajoute un composant, quand j'enlève un composant, etc. Ensuite, on est très vite à passer à des applications de bande test virtuelle. Donc là, c'est plutôt des applications orientées logicielles dans lesquelles on va utiliser la virtualisation pour faire des développements anticipés de logiciels et voir comment ils vont se comporter sur un nouveau matériel. Par la suite, il y a des applications qui sont venues plus axées interopérabilité. C'est plutôt là maintenant la virtualisation au sens où on l'entend actuellement. Donc c'est vraiment cette fois-ci complètement orienté applicatif. On cherche à faire fonctionner l'application en dépit du fait qu'on n'a pas forcément le matériel sur lequel elle est censée tourner. On cherche aussi à faire de l'optimisation de ressources, c'est-à-dire par exemple être capable de mettre plusieurs applicatifs qui sont censés fonctionner sur plusieurs machines physiques et les faire marcher sur une seule machine physique pour optimiser la charge. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, la virtualisation au sens où on entend aujourd'hui. Et en attendant, les premières technologies de simulation de systèmes électroniques ont continué à faire leur petit bonhomme de chemin et ont été appliquées à de l'analyse de code dans les domaines de la sûreté ou dans les domaines de la sécurité. Donc ce qui est important dans toutes ces applications des plateformes virtuelles et de la virtualisation des systèmes électroniques, c'est que toutes ces applications réutilisent de nombreux concepts qui sont assez communs, de nombreuses briques technologiques assez communes, et pourtant, au travers du temps, on n'a eu de cesse que de réimplémenter ces briques technologiques. Et pour autant, il y aurait vraiment un énorme gain à être capable de factoriser toutes ces techniques et pour réduire les coûts de développement et pour augmenter la confiance qu'on va pouvoir avoir dans ces simulateurs, dans ces plateformes virtuelles. Et la confiance, on en a vraiment besoin, on va le voir dans le suite de la présentation. Alors, le plan de la présentation, donc je vais revenir très rapidement sur un petit peu des éléments de contexte. Ensuite, je vais présenter la plateforme de virtualisation sur laquelle on a travaillé, qui s'appelle Unisim VP. On va montrer justement l'application à un use case security à travers l'utilisation de l'outil BINSEC. Et enfin, on viendra donc au cœur du travail que je présente, qui est la validation de cette plateforme au travers d'un simulateur auto-vérifiant. Alors d'abord, un élément de contexte, très rapidement, donc ça n'a échappé à personne. En l'espace de 50-60 ans, on est passé d'applicatifs extrêmement simples, avec une application implémentée par un simple code programme monolithique, à des piles logicielles extrêmement complexes, où les programmes sont bâtis au-dessus de machines virtuelles, elles-mêmes bâties dans des operating systems et sur des hyperviseurs, le tout déployé de manière distribuée avec du parallélisme massif de threads, du parallélisme applicatif et du parallélisme de services. Donc, et encore, l'image est volontairement simplifiée, mais on a vraiment des piles logicielles très compliquées à gérer, et ça nous amène beaucoup de problèmes d'un point de vue sécurité. Donc, Comment est-ce qu'on adresse cette complexité? Bah d'abord, on l'adresse en ayant une vue système. Pour être capable de passer à l'échelle, on l'adresse en ayant une vue système. Donc depuis, avec des techniques assez ancestrales, comme la gestion des droits, le confinement, les firewalls, les proxys, etc. Et des choses un petit peu plus récentes, avec des approches donc, d'inspection de trafic et de détection d'anomalies avec du machine learning. Donc ça, c'est pour les approches système, mais les approches centrées sur le code, elles existent toujours, elles sont toujours extrêmement importantes, et on est toujours en train d'analyser ce qui se passe au niveau des codes de chacune de ces briques. D'abord, au travers de bonnes pratiques en termes d'ingénierie de code, ça c'est toujours vraiment le nerf de la guerre, c'est extrêmement important d'avoir des codes robustes, bien conçus, qui minimisent par construction les surfaces d'attaque, mais aussi, puisque le problème devient de plus en plus gros et de plus en plus complexe, on cherche à avoir de plus en plus d'outils automatiques d'analyse de code, qui vont permettre d'accélérer la vérification de ces codes et la découverte de failles ou de vulnérabilités. Donc, je reviens donc sur les plateformes virtuelles sur lesquelles on s'est basé pour faire ces analyses de code. Donc, nous, on développe des plateformes virtuelles depuis maintenant très longtemps, depuis plus de 20 ans, pour différents scénarios d'utilisation, donc comme j'en ai parlé, que ce soit du prototypage matériel, du raffinement de spécification ou du banc de test logiciel ou un certain nombre d'applications, jusqu'à maintenant beaucoup axé sur la validation et la sûreté, et énormément axé sur le développement logiciel et anticiper le développement logiciel. Ce framework de plateforme virtuelle, il est composé donc d'une librairie de composants, de modèles de composants qui vont nous permettre de bâtir ces simulateurs, donc avec des choses tout à fait classiques comme des modèles de processeurs, des modèles de mémoire, des modèles d'interconnect. Et au-dessus de ça, on va bâtir un certain nombre de services en se connectant avec des outils soit externes, soit des outils à nous, qui sont des outils de test, de validation, de vérification, d'analyse de traces. Et on va de plus en plus vers de l'analyse de code enrichie, avec des analyseurs de code un peu plus perfectionnés au sein de ces simulateurs. Alors comment on fait ça? Donc le principe, c'est donc de prendre les simulateurs tels qu'on a toujours, on les a toujours faits, et d'essayer de changer un petit peu, de les reprogrammer un tout petit peu. C'est pas énorme la reprogrammation, mais il faut quand même la faire, en introduisant dans ces simulateurs toutes les données qui vont circuler dans les processeurs, dans les mémoires, sur les réseaux, etc. On va les implémenter avec des types flexibles et donc des types qu'on dit polymorphiques, qui vont permettre de faire soit des calculs concrets, le calcul qui est censé faire le processeur qu'on simule. Par exemple, ici, on voit à gauche sur la figure la description de ce qui est fait dans une addition d'un processeur. Tout simplement, on récupère les valeurs d'entrée des registres, on les additionne et on positionne les résultats. Et donc, c'est des valeurs concrètes qui sont traitées. Ici, 5 plus 10 égale 15. Mais on peut aussi remplacer le type de données manipulées par des données plus abstraites ou des données symboliques, par exemple des équations ou des variables, et auquel cas on va être capable, donc nos simulateurs, de leur faire dire un peu plus que juste ce qui fonctionnellement s'est passé, mais on va être capable de tracer un peu plus d'informations. Jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup utilisé, ces analyses de code enrichi, pour traiter de stabilité numérique, ou alors donc faire des analyses de nombres flottants, ou alors faire de la robustification de code, du code sanitizing, en allant chercher les calculs non initialisés, etc., ce genre de choses. Et plus récemment, donc, on s'est attaqué à des use cases à travers nos simulateurs, des use cases de sécurité, en particulier en s'interfaçant avec l'outil BinSec, donc, qui est un outil d'analyse de code binaire. Alors, cet outil, assez simplement, donc c'est un outil qui va permettre d'analyser du code machine et qui va permettre donc de mettre en place des techniques d'analyse basées sur les méthodes formelles et sur la vérification automatique de code. Le processus est simple, on va prendre du code machine en entrée, on va le transformer à travers des front-end décodeurs en une représentation interne qui après peut être manipulée par l'outil BinSec et qui est distribuée sous différentes formes à des greffons appliquer des analyseurs, des back-ends, comme on les appelle, qui vont faire un certain nombre d'analyses orientées sécurité, orientées principalement de détection de vulnérabilité ou de vérification de présence de malware. Donc, comment est-ce qu'on connecte nos simulateurs, j'allais dire ceux qu'on a l'habitude de faire depuis très longtemps, à ces nouveaux outils de sécurité? On le fait à travers des extensions dont je vous ai parlé. Donc ici, on va utiliser la possibilité de faire une exécution abstraite du code pour produire directement la représentation la représentation intermédiaire, qui est utilisée par Binsec. Et avec cette technique, en fait, en l'espace de 2 ou 3 semaines, on était capable de rajouter un front-end ARM qui manquait à l'outil Binsec et qui était extrêmement demandé, en fait. Énormément de gens venaient nous dire, bah oui, c'est bien ce que vous faites, mais ça marche sur x86, mais j'aimerais beaucoup que ça marche sur ARM. Mes use cases sont sur ARM. Donc, on a fait en 2-3 semaines un front-end ARM qu'on a connecté à Binsec et on a redémontré, pour se rassurer, un certain nombre de démos qui avaient été faits sur des cyber grand challenge, des techniques de décompilation du code machine vers du C. Et on a aussi fait une application à la détection de vulnérabilité dans un RTOS avionique. C'était l'une des principales motivations qu'on avait pour faire le front-end ARM. Et on a été capable d'appliquer des back-ends de preuves de données d'interférence, et on a même découvert un bug critique dans le RTOS. Voilà, donc j'en arrive à la deuxième partie, celle où en fait on s'est posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour valider ces simulateurs, pour faire en sorte qu'ils soient de haute confiance. Alors d'abord, pourquoi valider, pourquoi essayer d'être vraiment sûr que ces simulateurs reproduisent exactement fidèlement la réalité? Eh bien, deux raisons évidentes, c'est que déjà d'un premier temps, nos simulateurs ils sont utilisés dans des environnements vraiment critiques. On a des gens, en particulier dans le domaine du nucléaire, qui vont utiliser des simulateurs qu'on a validés pour développer du logiciel qui doit aller après dans des centrales nucléaires. Donc là, on n'a pas le choix, c'est carrément donc, les gens du nucléaire qui demandent des dossiers de validation très très importants, très épais. Et aussi, on l'a vu, on fait maintenant de la sécurité et on applique des méthodes formelles qui sont basées sur le fait que nos simulateurs sont précis. S'ils ne sont pas précis, tous les raisonnements formels s'écroulent forcément. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on essaye de valider maintenant, comme on le fait nous, les simulateurs instruction par instruction? Déjà, c'est juste parce que détecter des erreurs dans les simulateurs sur la base d'une application, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous pouvez parfaitement avoir une erreur dans un simulateur ou dans un processeur et qu'aucune application s'en rende compte. Et à l'inverse, vous pouvez avoir une erreur dans une application, remonter à la source, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, de quasiment infaisable. Donc nous, on préconise de regarder chaque instruction pour instruction pour essayer de vraiment d'être sûr et d'avoir une confiance la plus élevée. Et enfin, pourquoi un simulateur auto-vérifiant? Et bien parce que tout ce travail, en fait, on le fait à la main depuis assez longtemps et c'est un travail qui est très très lourd de faire ces unit tests par instruction et de lancer les campagnes de tests. C'est un travail qui est très très lourd et qu'on aime bien automatiser. Donc le principe général de simulateur auto-vérifiant, il est assez simple en fait. On va en deux étapes, d'abord scanner toutes les instructions possibles, l'espace d'encodage de toutes les instructions, les délivrer au simulateur pour qu'il les décode, qu'il crée les instructions, et à travers nos analyses enrichies, on va produire une description sémantique de ces instructions. Fort de toutes ces informations, on va passer dans une étape de sélection de test, donc on va mettre en forme toutes les instructions qu'on choisit et celles qu'on enlève, pour essayer d'être le plus couvrant, essayer d'être le plus pertinent et représentatif de ce qu'on veut tester. Et ensuite, on passe dans une deuxième phase qui est en ligne, dans laquelle on génère directement les tests, on les met en forme sous forme de fonctions qui vont regarder chaque instruction, mettre en place les entrées, regarder les sorties, et vérifier sur le matériel réel, celui donc qu'on veut simuler, et dans le simulateur. Donc l'intérêt de cette approche, c'est comme je disais, on a factorisé le développement, on a même automatisé un certain nombre de choses, parce qu'en fait, tout ce qui est en bleu sur le figure est un code immuable, c'est une librairie, elle ne bouge plus, on l'utilise la même pour tous les simulateurs. Et tout ce qui est en vert, c'est en fait finalement le même code de simulation qui, à travers notre jeu de type flexible, va être spécialisé pour faire un décodeur, un analyseur ou un simulateur. Donc en fait, normalement, on a très très peu de travail à la main. Dans la pratique, je vais revenir en vitesse sur deux points où on a un petit peu de travail à la main quand même. Sur la découverte d'instructions, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire d'exploration soit exhaustive, soit un peu aléatoire de tous les encodages possibles, combiné aussi à regarder dans le simulateur quelle instruction il y a et en déduire les encodages. Donc ça, c'est des techniques qu'on combine, qui marchent très bien d'habitude. Et malheureusement, dans le cas qu'on s'était fixé, le x86-64, elles sont complètement inapplicables. Parce que le jeu Intel AMD x86-64 a des instructions extrêmement longues, de 15 octets, avec énormément d'encodages possibles, et il est quasi impossible de mettre en place ces techniques. Donc là, on a été obligé, malheureusement, d'introduire un tout petit peu de connaissance de l'architecture dans cette phase-là. Et deuxième endroit, on est un peu obligé d'introduire une connaissance architecturale, c'est la comparaison des instructions. Donc, principalement parce qu'en fait, pour nous, il est très très dur de comprendre les effets de bord d'une instruction sans avoir une connaissance sur l'architecture. Déjà, si on avait besoin de regarder tout ce qui peut changer après l'exécution d'une instruction, ça serait beaucoup trop large. Potentiellement, toute la mémoire a pu changer, tout a pu changer. Donc, on est obligé de regarder de manière beaucoup plus orientée. Et si on ne regarde que ce que le simulateur nous dit qui a changé, alors on est biaisé, parce que forcément, on est un peu jugé parti. Donc, il va nous falloir injecter un petit peu de connaissance de l'architecture pour se poser la question, d'accord, le simulateur m'a dit que ça allait changer, mais est-ce que je n'ai pas regardé un petit peu à côté pour voir des choses qui potentiellement pourraient avoir changé? Bon, et malgré tout ce travail, il reste encore un certain nombre d'effets de bord qui sont difficiles à comparer. Et en particulier, et ça, ça intéresse beaucoup de gens dans le domaine de la sécurité, être capable de caractériser sur un processeur toutes les instructions est quelque chose de très compliqué, parce qu'on a un certain nombre qui sont difficiles, qui ont des effets de bord assez hasardeux et assez dangereux, qui peuvent mettre le processeur dans un état d'erreur, donc après on a un peu de mal à savoir ce qu'elle a fait. Et en plus, on peut aussi avoir des instructions qui sont légales, mais dont certaines combinaisons d'entrée vont provoquer des problèmes. Donc parmi les effets de bord sur lesquels il faut faire un petit peu attention, il y a bien sûr les accès mémoire, les branchements, les interruptions, les appels à l'hyperviseur, etc. Certains accès au compteur matériel. On a des résolutions pour la plupart d'entre eux. Soit on va essayer de un peu arranger les entrées, un peu tricher sur les entrées pour les forcer à être dans des régimes de fonctionnement corrects. Faire tourner tout ça dans des environnements protégés, dans des débuggers, ou voire même dans des hyperviseurs. Mais on arrive toujours à un point où on a certaines instructions dont on a du mal à caractériser les effets de bord. Et en particulier, certaines instructions qui dépendent de l'environnement, je sais pas, une instruction qui pourrait nous donner la température ou le temps, ou, etc. Celles-là, on va avoir du mal à dire qu'elles sont bien simulées et qu'elles reproduisent bien le comportement réel. Voilà, donc on a mis en place toute cette validation dans nos simulateurs. On a découvert des bugs donc, dans certains simulateurs qui étaient des simulateurs qui fonctionnaient depuis 10 ans, qui n'avaient plus aucune relevée de bugs, qui semblaient parfaitement fonctionnels. Et on en a retrouvé encore d'autres en mettant en place ces techniques automatiques. Donc on s'est dit, très bien, elles marchent pour nous, mais est-ce qu'elles marchent pour d'autres simulateurs? Alors, on n'a pas encore eu le temps de mettre en place ces techniques et ces méthodologies dans d'autres simulateurs. C'est un petit peu lourd à faire, mais on va probablement être capable de le faire assez vite. On pourrait toujours réutiliser les tests qu'on a générés pour aller vers d'autres simulateurs, mais là encore, ça, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, juste dans le temps imparti, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre le bug le plus particulier sur lequel on est tombé, celui qui nous a fait dire, mince, même la spec de Intel AMD, même la spécification, n'est pas très claire à ce sujet. Donc on a pris vraiment le plus tricky, et on a essayé sur d'autres simulateurs. Et donc on a trouvé effectivement une instruction incorrecte, dans un simulateur assez connu, QEMU, une instruction en fait, où par le biais de préfixe 686, on est capable de faire un accès mémoire dans le simulateur qui ne tape pas au même endroit que dans le hardware réel. Et en particulier, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que l'offset est absolument contrôlable par le programme. Donc il pourrait par exemple passer dans un analyseur de malware en disant « je travaille dans une zone mémoire qui est non suspecte » et sur le matériel réel, aller dans une zone mémoire suspecte. Voilà, donc le bug a été soumis. En conclusion, je dirais donc que donc on a montré avec ces extensions qu'on a fait sur nos simulateurs qu'on est capable maintenant de factoriser le développement et qu'on n'est pas obligé de redévelopper des briques de type virtualisation, simulation de processeurs et qu'on est capable de les réutiliser dans de nombreux use cases allant de la sécurité à la sûreté, à de la stabilité numérique ou d'autres applications avec très peu de modifications et très peu de surcoûts à l'exécution. Et ça nous a permis en particulier de mettre en place cette méthode automatique de vérification et de validation basée sur sur l'introspection de code. Cette méthodologie, on l'appliquait de manière, donc on l'a rendue générique, on l'applique à plein de simulateurs, on a beaucoup de bons résultats, on a vraiment gagné en confiance sur ces simulateurs. Et on a ouvert donc deux suites d'un point de vue recherche qui nous paraissent très importantes. Donc une qui est déjà très largement implantée, hein, la caractérisation des instructions système et de leurs effets de bord, c'est quelque chose justement dans le domaine de la virtualisation sur lequel tout le monde travaille. On a monté quelques pistes pour quelques techniques dans ce domaine, mais c'est déjà un domaine très actif. Et un autre domaine qu'on essaye vraiment de continuer, c'est le scanning d'instructions architecture indépendante, parce que c'est aussi quelque chose qu'on pourra appliquer, nous, pour développer rapidement des simulateurs si on a un nouveau processeur qui arrive. On va être capable, par exemple, de récupérer ce processeur et d'essayer d'aller deviner un petit peu, comme ça, de manière agnostique, qu'est-ce qu'il est capable de faire, comment il est composé, comment il est structuré, juste en faisant des scans orientés, quoi. Voilà. Eh bien, je vous remercie.
Merci Yves. Donc la parole est à la salle maintenant. Allez-y, donc sur la gauche.
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Juste une question, quel temps faut-il pour développer un modèle de processeur ?
C'est une bonne question. Alors en général, on les fait de manière assez incrémentale, parce qu'on va avoir des gens qui vont nous demander certaines choses sur du code userland, puis après des gens qui vont demander des full systems. Donc on essaie justement de factoriser un peu les développements pour les resservir dans différents projets et gagner en maturité à chaque fois. Je dirais que de bout en bout, ça va dépendre des processeurs, mais bon, sur un processeur on va dire généraliste, comme du ARM ou du Intel, de bout en bout, il faut... 2 ans pour un premier résultat un peu approché, et peut-être on peut aller jusqu'à 10 si on veut un très très haut niveau de confiance. Sur du code userland, on peut en 6 mois avoir quelque chose qui fait tourner toutes les applications linkées avec la libc. En 6 mois, oui, on peut avoir quelque chose qui fait déjà tourner toutes les applications, mais pour avoir un petit peu de confiance quand on fait des applications un peu plus critiques, je dirais qu'il faut au moins investir 2 ans.
Et au bout de 2 ans, on a un modèle cycle accurate ou...
Ah non, alors fait plus les modèles cycle accurate. C'est plus vraiment demandé. En général, les gens qui veulent faire des analyses de performance vont beaucoup travailler directement sur les cartes. On fait plus que des modèles instruction accurate. Okay. Donc on ne sait pas les problèmes de timing. C'est assez important parce qu'il y a un certain nombre de malwares qui détectent qu'ils sont dans une sandbox grâce au timing. Même Linux, en fait. On n'a jamais été capable de leurrer Linux. Au bout d'un moment, il finit par comprendre qu'il est dans un simulateur. Donc il n'y a pas besoin d'être un malware. On n'a jamais réussi à calibrer correctement en timing nos timers. Même Linux arrive à détecter au bout d'un moment. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris, je ne suis pas dans une vraie machine.
Ok, merci.
Une autre question ? Et au milieu, oui, le micro arrive.
Et merci pour la présentation, c'est du beau boulot ce que vous faites. La question, c'est les 135 bugs de QEMU qu'on citait ce matin, c'est vous ?
Alors, non, il y a en particulier des gens qui font un peu qui utilisent un peu la même technique et qui en ont trouvé certains. Il me semble que c'était des bugs de KVM. Alors entre KVM et QEMU, KVM c'est l'hyperviseur, pardon. Et QEMU, c'est juste du simulateur de processeur. S'il y a un bug dans QEMU, c'est un peu moins grave. C'est plus des émulateurs qui vont servir des gens pour faire tourner des applications. D'ailleurs, notre bug, ça fait quelques mois qu'il est sur le... Et encore personne l'a regardé et personne n'a signé. KVM, c'est un petit peu plus important. C'est un hyperviseur et il y a des gens qui vont dépendre de manière plus critique. Et donc nous, on a découvert un bug dans QEMU. Bon, apparemment, pour l'instant... Personne n'a vraiment trop d'intérêt à s'en occuper. Mais par contre, oui, les bugs dont les gens s'inquiétaient de chez Orange ce matin, c'était dans KVM, et là, c'est plus inquiétant, effectivement. 172 bugs, dont certains sont non assignés, non pris en charge. C'est, oui. Mais bon, ça demande beaucoup de développement. C'est pour ça aussi, nous, qu'on préconise de factoriser les développements. C'est parce qu'on réalise bien que même une très, très grosse communauté n'arrive pas à suivre le rythme. Donc, il faut trouver des techniques pour automatiser. Sinon, on se fait très vite dépasser. On finit par avoir des projets open source qui tombent à l'abandon. C'est pas du tout le cas de QEMU et KVM. C'est bien loin. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils sont très actifs, mais malgré le fait qu'ils soient très actifs, il y a beaucoup de bugs à la traîne.
Oui, on va prendre en haut à gauche.
Bonjour et merci pour la présentation. Vous faites un boulot fantastique.
Merci.
Est-ce que la phase d'apprentissage d'un nouveau processeur est intrusive et peut modifier le comportement du processeur ? Ou est-ce que c'est vraiment en mode lecture uniquement ?
C'est une bonne question. Si on était vraiment agnostique et qu'on n'avait aucune connaissance sur le processeur qu'on va regarder, on est incapable de dire qu'on ne va pas modifier quelque chose, donc ça serait vraiment compliqué. Sauf si le processeur, on connaît, mais là encore, il va falloir qu'on ait quelques hypothèses sur le processeur, si on connaît ces mécanismes d'hypervision et qu'on est capable de faire du snapshotting, la restitution d'état. En fait, nous, on triche un peu, on va souvent travailler sur pas le processeur, mais sur un désassembleur, un compilateur de ce processeur. Donc, par exemple, on va regarder la production texte d'un désassembleur pour le processeur. On va scanner en vitesse, alors là, c'est beaucoup plus safe de travailler sur un désassembleur à côté que de travailler sur le processeur directement. Mais ça serait intéressant à travers du debug JTAG ou du debug matériel de pouvoir travailler sur le processeur lui-même. Ouais. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question.
On a le temps pour une dernière question. Donc, non. Ah, si. Oh, tout en bas. Je ne sais pas qui va bouger.
Donc si j'ai un bug matériel un peu obscur qui nécessite du contexte, plusieurs instructions à la suite exécutées, on ne va pas le retirer. Entre chaque test, le contexte est effacé du hardware ?
C'est une bonne question, effectivement. On part du principe que le processeur n'a pas forcément ce genre de bug. Et là, effectivement, de la même façon que ce qu'on disait sur les applications, c'est difficile de revenir à la source. Je pense en particulier en ce moment, il y a un bug effectivement dans les processeurs Intel qu'on a soupçonné depuis, ça fait déjà 2-3 ans je crois, que Firefox a dit il y a un problème dans vos caches et ils n'arrivaient pas à le reproduire parce qu'effectivement c'est une combinaison très obscure d'événements passés pour arriver à ce bug et donc Intel a publié un erratum récemment et ça remonte, ça couvre toute une génération de processeurs depuis assez longtemps. Malheureusement, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Les bugs qui impliquent un état caché du processeur, donc forcément qui va se révéler au bout de plusieurs instructions, avec des tests unitaires, on ne le verra jamais. Ouais, nous, on part du principe que les processeurs sont déjà lourdement validés, et c'est le cas. Et donc, qu'ils n'ont pas ce genre de problème. Ouais.
Bien, merci. Merci Yves. On va applaudir.